Bon, bien, merci d'être venu malgré le beau temps et malgré une marche programmée aujourd'hui. C'est formidable. Ça va pas bien. Ça va comme ça? Donc, sur des photos originales de Paris, prises ces dernières années, je vais essayer de vous présenter une histoire de Paris, avec notamment une histoire de ses façades. Vous m'entendez mal? Non? Je vais donc essayer de vous présenter une histoire de Paris qui comprend notamment une histoire de ses façades. Pour ça, mes sources sur l'histoire des façades, c'est cet ouvrage, Grammaire des immeubles parisiens, paru chez Parigramme, qui est géré par Monumes. Autrement, je me suis servi bien sûr d'un certain nombre d'ouvrages. Celui qui relate le mieux l'histoire de Paris, c'est celui-ci, qui s'appelle tout simplement Paris. Comme d'habitude, les parutions chez Larousse sont de bonne qualité et il est fait par des historiens. Voilà. Le préambule vous annonce ce qui se passe avant le XIIe siècle, ça va aller très vite. Je pense que le sommaire est très facile à lire, je n'ai pas besoin de vous le commenter. Voilà la suite. Rassurez-vous, on ne fera pas tout ça. Il est évidemment impossible de faire une histoire de Paris en une conférence. Alors, si vous voulez le bien, on fera une suite, et si la commission des programmes surtout le veut bien. Ça, c'est pas dit.
Il faut que tu réussisses ton coup, hein, sinon.
Bon, c'est un examen, alors. Ce plan, les premiers plans en fait exploitables de ce type sont de 1530. Celui-ci est de 1564. C'est celui-là. Il serait intéressant de le détailler. Ceux qui veulent le détailler pourront le faire après la séance. C'est extraordinaire de voir toutes les rues qui existent encore depuis 1564. Faut quand même un effort d'imagination pour se représenter le Paris des premiers siècles. Paris beaucoup plus petit, évidemment. Vous remarquerez que l'orientation n'est pas notre orientation habituelle. Le nord est là. L'est est là. D'accord? Mais j'ai voulu respecter ce qui se faisait à l'époque. Vous reconnaissez l'île de la Cité. L'île Saint-Louis n'existe pas. À l'époque, deux îles désertes, l'île aux Vaches et l'île Notre-Dame. En premier événement, ce sont l'arrivée des troupes de César, qui arrivent par le sud et qui s'installent sur le tertre qui domine Paris, qui est ici, qui s'appelle maintenant la montagne Sainte-Geneviève. Aucune enceinte ne clôt l'agglomération à l'époque. On n'en a pas besoin, on est protégé par la Pax Romana et la frontière avec les Germains est très loin. Aux premières invasions, évidemment, ils ne restent pas là. Ils fuient sur l'île de la Cité. Et là, à ce moment-là, ils font la première enceinte de Paris. Paris ne devient important qu'avec Clovis, qui en fait le centre de son royaume en 481. Ses successeurs y séjournent peu. Après les Mérovingiens, les Carolingiens, en plus, se détournent complètement de Paris. Alors nous aussi. La conférence est placée, en fait, sous une double protection, on ne sait jamais. La première, c'est celle de Sainte-Geneviève, qui protégea Paris contre les Huns. Façon de parler. La seconde protection est celle des Nôtes, une puissante corporation. J'arrive pas à zoomer. Hein. Comment tu... Avec la molette? Voilà. Puissante corporation qui contrôlait complètement le commerce fluvial avant d'exercer les premiers pouvoirs municipaux au Moyen Âge. En fait, je ne vous apprends rien, mais j'essaye quand même de renouveler vos connaissances pour que vous compreniez la suite. L'histoire commence donc au XIIe siècle. Et elle commence par une photo qui n'est pas évidemment la plus spectaculaire. Il s'agit d'un regard. C'est un regard qui est dans le 20e arrondissement, placé sur la colline de Berville, et qui est placé sur les eaux captées sur les sources qui sont sur la colline de Belleville. Ces eaux sont dirigées vers la plus grande abbaye de l'époque. Vous la connaissez ? C'est celle de Saint-Martin-des-Champs. Il y en a qui la connaissent. Seules les abbayes importantes étaient alimentées en eau, surtout vers l'an 1000. En l'an 1000, les habitants de Paris buvaient l'eau de la Seine. Il fallait être dans une abbaye. L'église de Saint-Martin-des-Champs, la voilà. La plus importante abbaye, car placée dès le XIIe siècle, sous l'ordre de Cluny. Elle existe encore, car elle a été sauvée à la Révolution pour en faire le site du musée des arts et métiers. Le cul-de-four de l'église romane n'est évidemment pas des potes. Il a été refait plusieurs fois, la dernière fois en 1850. La plus grande abbaye, en fait c'est un prieuré, l'abbé était à Cluny, car aux portes de Paris, sur le chemin de Saint-Jacques, et sous l'ordre de Cluny, une des cinq premières dans l'ordre hiérarchique des centaines de prieurés qui dépendront de Cluny. L'autre abbaye importante, vous la connaissez certainement mieux, c'est celle de Saint-Germain-des-Prés. Une première basilique est bâtie par Saint-Germain en 555 et l'église actuelle date du XIIe siècle. De cette église, il ne reste en fait que deux tours, la base du clocher et cette tour-là. La nef a été refaite au XVIIe siècle, elle est bien sûr gothique, et a été repeinte récemment au goût médiéval. C'est une rénovation qui date de quelques années, 4 ou 5 ans. Alors je viens à un deuxième plan de Paris. C'est en fait le plan de Paris actuel sur lequel a été tracé les différentes enceintes successives qui jalonnent l'histoire de Paris. Les premiers Capétiens, ça doit aller comme ça, non ? Ça marche, là, ça grossit. Les premiers Capétiens construisent une petite enceinte insignifiante, par là, et puis deux places fortes, le Grand Châtelet, qui se trouve exactement là, et le Fort du Louvre, qui se trouve là. Vous voyez l'enceinte actuellement du Louvre actuel, avec la cour carrée, la place forte du Fort du Louvre est exactement ici. Tout ça pour se protéger des invasions fluviales, surtout des Normands. Et la première enceinte véritable date de 1200, c'est l'enceinte de Philippe Auguste, que tout le monde connaît. Voilà sa trace. Ici, le Panthéon actuel, la Beaubourg, les Halles, donc, ok. Le vestige le plus important est rue des Jardins Saint-Paul dans le Marais. Vous voyez que la tour qui reste de cette époque n'est pas une petite tour. Hein. Les bâtiments qui font 4 étages à côté. Et à côté, la muraille avec la tour suivante. Les gamins qui sont là, ce sont les gamins du lycée Charlemagne, qui est juste derrière, et qui tous les jours dégradent un peu la muraille, mais c'est pas bien grave. Cette photo-là, vous la connaissez. Les travaux à Notre-Dame ont démarré en 1163. En fait, pendant 60 ans, elle a été remaniée, transformée, bricolée, notamment au XIIIe siècle, on a agrandi considérablement les fenêtres. Le chantier est prolongé jusque vers 1320. C'est en fait le prototype des églises gothiques. Pour faire un prototype, il faut prendre un peu de temps. Les arcs-boutants sont célèbres. copié par toutes les églises gothiques, d'autant plus que nécessaire pour reprendre des poussées de la voûte sur des hauteurs de nef de plus en plus importantes. La cathédrale, comme vous le savez, était en piteux état au XIXe siècle. Une commande de restauration est passée par l'inspecteur général des monuments historiques, Prosper Mérimée, à deux architectes. Lesquels ? Viollet-le-Duc, c'est connu, mais c'est surtout Lassus. C'est lui qui fait en fait le travail. Viollet-le-Duc, lui, est beaucoup occupé à l'époque par Carcassonne. Et Lassus, le méconnu, est en fait l'architecte de la cathédrale. Je ne vous dis pas pourquoi, Viollet-le-Duc était très connu. S'agit-il d'une église du XIIIe ou du XIXe ? À vous de jouer, avec les rajouts de toutes les statues, gargouilles et chimères, vous connaissez l'histoire. Et vous savez aussi que Lassus a rajouté cette grande flèche. Au Moyen-Âge, la flèche était toute petite. Alors, quand j'ai commencé de préparer la conférence, c'était début mars. J'avais évité cette photo et je n'avais mis que des photos qui présentent une cathédrale qui ressemblait à une cathédrale du XIIIe siècle. Puis depuis, vous savez beaucoup plus de choses, alors j'ai rajouté cette photo. Sa flèche est quand même très célèbre. Alors j'ai rajouté aussi cette photo. J'étais là le jour de l'incendie. La photo, exceptionnellement, cette photo, elle est prise avec un portable. Toutes les autres sont prises avec mon appareil. Ça va, quand même. Mais je pense qu'elle n'est pas si mal que ça, parce que, ici, vous voyez un pigeon. Donc la photo a beaucoup de valeur, puisqu'il s'agit d'un pigeon qui s'est envolé des tours de la cathédrale au moment de l'incendie. Voilà, une vingtaine de minutes après, la partie centrale est consumée. Et le foyer, les deux foyers, un vers le chœur et l'autre qui s'éloigne vers les tours. Et voilà qu'un jour après, c'est toujours pas mal, mais sans toit. On remarque à peine qu'il n'y a pas de toit. On passe à la Sainte-Chapelle, aux temporaines de Notre-Dame. Saint-Louis l'a fait construire au milieu du XIIIe siècle pour accueillir les reliques de la Passion, dont un morceau de la vraie croix et la couronne d'épines. Elle est élevée dans l'enceinte même du palais des Capétiens, dont le cœur était à l'emplacement du palais de justice. Le palais de justice est là. Moi, pour prendre la photo, je suis dans la cour du palais de justice. Avec sa superbe flèche, également restaurée par Lassus, comme l'ensemble de l'édifice, mais conservée à sa dimension initiale, contrairement à celle de Notre-Dame. La Sainte-Chapelle, en fait, marque l'apogée de l'époque gothique, par sa légèreté, ses grandes ouvertures et ses vitraux magnifiques. C'est bien connu, c'est en fait une église sans mur. Le palais des Capétiens s'est considérablement agrandi au cours des siècles. Vous connaissez bien la conciergerie, avec ses quatre tours du XIVe siècle, et qui apporte un air vraiment médiéval au Quai de Seine. C'est l'endroit le plus médiéval de Paris. On va aller voir la tour de l'horloge, qui est au bout de la conciergerie, parce qu'elle renferme un truc méconnu, une horloge qui date de 1371, qui fonctionne, qui est contrôlée toutes les semaines, qui est jalousement entretenue. C'est vraiment un chef-d'œuvre de l'histoire des techniques. Encore moins connue, la tour de Jean sans peur, au centre de Paris, en plein centre, 20 rue Étienne Marcel, à côté des Halles. La tour de Jean sans peur et la présence bourguignonne dans Paris, à l'époque, c'était en fait leur résidence parisienne. Elle a été édifiée par Jean sans peur en 1408 au centre d'un hôtel construit par Robert II d'Artois en 1270. L'hôtel a disparu avec toutes les constructions successives, mais la tour, elle, est bien présente. Tout le monde passe à côté. Je suis sûr que pas beaucoup de gens savent de quoi il s'agit. Et une rue du quartier latin, difficile à trouver, presque d'époque. Elle est moins fréquentée que la rue de la Huchette et la rue Saint-Séverin. Et la maison la plus vieille de Paris, celle de l'alchimiste Nicolas Flamel. On n'est jamais sûr que ce soit la plus vieille maison, évidemment, mais c'est la plus vieille qu'on puisse dater. Il y en a des tas d'autres, notamment à Pas-de-Bois, dont les dates sont complètement fausses. Celle-ci, elle a sa date dessus. Je vais essayer de vous la... Ah, voilà. J'ai du mal. 1407. Je ne vous montre pas la partie supérieure de l'édifice qui était complètement abîmée par les restaurations. On passe au XVe siècle, on est déjà là. Au début du XIVe, sous le règne de Philippe le Bel, Paris devient pour quelque temps la plus grande ville d'Europe. Elle atteint même plus de 200 000 personnes en 1328. Ça doit être assez estimé. Sous les Valois, la guerre de Cent Ans et les épidémies marquent les heures les plus sombres de Paris. Fin du XIVe siècle, Paris retrouve sa place sous Charles V, qui reconquiert une partie du royaume avec du éclat. Charles V est un roi cultivé et lettré. Il installe une grande bibliothèque dans le fort du Louvre, construit aussi la quatrième enceinte de Paris côté rive droite. La voilà. Elle est facile à voir pour les gens qui connaissent bien Paris. Elle suit complètement les grands boulevards. Ici, la place de la Bastille. Ici, la place de la République. Voyez les boulevards qui se rabattent ici. Et elle se termine dans le Louvre actuel. Quand vous allez au Louvre en voiture, vous sortez par le parking, vous tombez sur l'enceinte de Charles V. D'accord ? En fait, ce n'est pas l'enceinte qui suit les grands boulevards, c'est plutôt l'inverse, puisque les grands boulevards ont été faits à l'époque de Louis XIV, après démolition de l'ensemble de Charles V. Et à la place, il a fait tracer les grands boulevards. On va revenir sur notre plan favori, celui de 1564. Il faut imaginer quand même que ce plan-là, de 1564, c'est deux siècles après la réalisation des fossés de Charles V. Sur la rive droite, vous voyez ces fossés, cette grande enceinte avec les fossés. L'enceinte de Philippe Auguste est toujours présente et sera conservée longtemps. Et sur la rive gauche, Charles V se contente de faire un fossé devant l'enceinte de Philippe Auguste. Paris reste médiéval, en fait, pendant cette longue crise, et la Renaissance artistique, comme vous le savez, se développe à Tours et à Blois. Il faut attendre la fin du XVe siècle pour voir construire quelques hôtels particuliers dans le Marais. Le plus intéressant, c'est l'hôtel de Sens, 1475-1507, où vécut la reine Margot. Elle poursuivit là sa vie galante à son retour de son exil d'Auvergne. En 1527, François Ier annonce qu'il va visiter le Louvre. Le château fort est détruit, mais en fait, Pierre Lescot n'arrive qu'en 1547, année de la mort de François Ier, pour démarrer la construction du palais qui va devenir la résidence des rois de France. Il va construire, Pierre Lescot, en fait, cette partie qui est là. La voilà. Le reste viendra plus tard. C'est en fait le chef-d'œuvre des cours du Louvre. C'est la partie Renaissance. Et une découverte presque fortuite, dans une petite rue, la rue de Nesle, un tout petit théâtre d'improvisation avec au sous-sol le plus beau plafond Renaissance de Paris. Enfin, à mon goût, celui que j'ai trouvé le plus beau. Superbe. Et la belle tour Saint-Jacques. En fait, la tour Saint-Jacques est le clocher de l'église Saint-Jacques de la Boucherie, ce qui donne l'importance des bouchers au XVIe siècle. Alors, réussi quand même par Haussmann, qui a dû se débarrasser de l'église pour aménager le quartier de quartier à côté, là. Il a déplacé de 80 à 100 mètres la tour Saint-Jacques, morceau par morceau. C'est invraisemblable de nos jours. Déplacer cet engin de 80 à 100 mètres pour la mettre là. Hein, c'est dommage, ça. Hein? Oui, ben. Je la vois pas.
La petite flèche là.
Ah oui, oui, oui. Attends. Ouais. Oh, c'est mieux comme ça. Pascal a renouvelé là ses expériences sur l'apesanteur de l'air. C'est une histoire bien connue. En fait, Pascal n'est jamais allé au Puy-de-Dôme. C'est son beau-frère Perrier qui avait fait des expériences. Et l'expérience de Pascal s'est faite là. La fontaine des innocents, chef-d'œuvre de la sculpture en ronde bosse de la Renaissance, tout au moins à Paris. La fontaine des innocents est place du Bellay. Elle est décidée par Pierre Lescot, bien sûr, et sculptée par Jean Goujon. Elle était déplacée sur le cimetière en 1787. Dommage, ça. Alors, j'ai oublié de vous dire que de temps en temps, j'ai placé des photos qui n'ont rien à voir. C'est les photos que je préfère, moi, de Paris, mais je les ai mises là, elles me servent de ponctuation. Ça vous sert à respirer un peu, moi aussi. Donc, là, c'est un point pour passer à l'époque suivante, qui est l'époque d'Henri IV et de Louis XIII. Un rappel, vous savez qu'en 1588, la Ligue catholique avec le duc de Guise s'empare de Paris lors de la journée des barricades. Il s'enferme dans la place. Le roi Henri III s'allie à son cousin le duc de Navarre, c'est comme ça qu'il est devenu roi de France. Les Parisiens assassinent Henri III, qui a le temps de reconnaître Henri IV comme son successeur. Henri IV entre donc dans Paris en 1594, il n'y trouve que ruine et désolation, comme on dit. Cette petite plaque, il faut bien la chercher, moi je l'ai trouvée sous le pont Neuf. Je ne sais pas pourquoi elle est sous le pont Neuf, en fait. Mais c'est sûr qu'on n'avait pas envie de la montrer beaucoup. Il faut trouver aussi la très distraite statue de l'amiral de Coligny. Elle est cachée le long de la rue de Rivoli, derrière une grille adossée à l'oratoire du Louvre qui est laissée au culte protestant. C'est pour ça qu'elle est là. Elle est comme honteuse. Attendez, je vais essayer. Voilà. C'est bien lui. Il est bien signalé, mais il est caché. Il est bien mort en 1572, donc ça va. Il y a deux événements à Paris dont on a du mal à trouver trace. C'est les guerres de religion et la Commune. Une belle rue presque du XVIe siècle, près de la place Saint-Michel. C'est celle qui est dans Paris qui évoque le plus le XVIe siècle. Une autre, la rue Visconti, avec des maisons et des hôtels particuliers tout le long de la rue du XVIe. Et une toute petite rue, celle-là, il faut la trouver, il s'agit de la rue de Nevers, où bien sûr, on n'arrive pas à passer avec des charrettes. Donc de nombreuses rues de Paris à l'époque étaient comme celle-là. Et c'est dans un détail de rue comme celle-ci que Henri IV va entreprendre ses travaux de rénovation et notamment faire la première grande percée de Paris qui est la rue Dauphine. La rue Dauphine est juste à côté. Qu'est-ce qu'on doit à Henri IV? L'aménagement des quais, le pont Neuf que vous avez là et les premières grandes places. Et bien sûr la première percée. Le Pont Neuf, c'est le plus beau pont de Paris, en tout cas le plus ancien, et le premier sans maison et avec des trottoirs. Tous les ponts précédents étaient avec des maisons, et pendant des siècles encore, il y aurait des maisons sur beaucoup de ponts. Vous savez qui, là, on est du côté du bras nord de la Seine. Il s'appuie ici sur l'île de la Cité et continue sur le bras sud. Là, juste sous la flèche, on a le square du Vert-Galant et la statue du Vert-Galant qui est juste au-dessus. Je vais vous la montrer. Superbe, avec ses 384 masques grotesques et ses tourelles. C'est encore mieux la nuit. Ils partent en crue. Là, il y avait une belle crue. C'est la crue de fin 2017. Alors, moi, j'aime bien cette statue. Elle date de 1818. Il n'y a plus de statue d'époque des rois de France, bien entendu. La Révolution était passée par là-dessus, et même l'Empire. Elle est coulée en partie avec le bronze de la statue de Napoléon qui couronnait la colonne Vendôme. J'aime bien le Vert-Galant qui regarde la jeune fille qui est devant le panneau qui masque les travaux de la Samaritaine en 2018. Le panneau n'est plus là, c'est bien dommage. Et la curieuse église Saint-Étienne-du-Mont. Elle est bâtie à l'emplacement d'une abbaye où on priait Sainte-Geneviève. Il reste de l'abbaye la tour Clovis, qui est ici. Elle est dans le lycée Henri IV, à droite, là, c'est le lycée Henri IV. Saint-Étienne-du-Mont a été commencé en 1492 et achevé sous Louis XIII en 1626, plus de 130 ans de construction. C'était le cas quand même d'un certain nombre d'églises et cathédrales. Façade à trois plans. Je vais essayer de faire ça, oui. Chacun devant l'autre. De style, on ne sait pas bien, à la fois gothique, d'inspiration antique et italienne. À l'intérieur, le jubé Renaissance est de 1641, avec deux beaux escaliers à vis et sa balustrade. Dans l'église, on trouve pêle-mêle les tombeaux de Pascal, de Racine, et les restes de Sainte-Geneviève. Enfin, les restes de Sainte-Geneviève ont été balancés dans la Seine à la Révolution, mais encore, on présente ces restes quand même toujours maintenant. C'est un miracle, oui, il a dû se passer quelque chose. L'église Saint-Gervais-Saint-Protée, on n'est pas en Italie, on est à Paris. Elle est derrière l'Ovide, l'hôtel de ville. C'est la première à Paris qui offre trois étages de colonnes classiques, doriques, ioniques, corinthiennes. On va essayer de faire ça. Ça se voit, ouais, voilà. Les chapiteaux corinthiens en haut. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup en France. Et l'église Saint-Paul et Saint-Louis, dans le Marais, la plus ancienne de style jésuite. Elle est célèbre pour les sermons de Bourdaloue et de Bossuet. Madame de Sévigné envoyait ses valets plusieurs heures à l'avance avant les sermons pour occuper les meilleures places. Une autre, l'oratoire du Louvre, tout près du Louvre, sur des plans de Le Mercier, encore une église de style jésuite, qui est en fait la chapelle de la famille royale sous Louis XIII et Louis XIV. Elle est cédée par Napoléon au culte protestant, et c'est au cul-de-four de cette église, derrière, que j'ai pris en photo la statue de l'amiral de Coligny. On revient à la cour carrée du Louvre, on va tracer tout au long, on va tracer l'histoire du Louvre. Henri IV qui poursuit la construction de la cour carrée. Vous voyez que le style de cette partie-là est complètement le style précédent, la partie de la Renaissance est ici à gauche, je ne l'ai pas sur la photo. Vous ne faites pas de différence avec ce qu'a bâti Pierre Lescot. Il faut faire abstraction de la partie haute, là, qui est faite sous Napoléon III. Henri IV a vraiment lancé le Louvre, parce qu'en dehors de cette façade de la cour carrée, il a fait construire toute la partie qui longe la Seine, la partie basse, qui va de la cour carrée jusqu'au palais des Tuileries, qui est maintenant le jardin des Tuileries. On va parler des façades de l'époque, dites souvent façade Louis XIII, que moi j'appelle façade Henri IV. Le plus bel exemple est là. D'accord ? En 1586, le palais de l'abbé de Saint-Germain-des-Prés, qui est en même temps, vous l'avez lu, le chef des liqueurs, préfigure le style Louis XIII. Qu'est-ce que c'est que le style Louis XIII? C'est des constructions en pierre et en brique, avec une caractéristique, les chaînes de pierre harpées, ça s'appelle comme ça, qui bordent les travées de fenêtres et qui se détachent sur des trumeaux de briques. Ici. Donc, à la prochaine conférence, vous verrez de nombreux bâtiments de style néo-Louis XIII. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Alors vous vous retournez, pas vous, mais moi, et en réplique à la photo précédente, juste en face, à travers la petite rue de Fürstenberg, la belle place de Fürstenberg, qui est la place la plus romantique de Paris, pour ceux qui connaissent. C'est là que se trouvaient les écuries de Saint-Germain. Et en face, la même façade que celle qu'on vient de voir, mais un peu plus tardive, un peu moins authentique quand même. Et on trouve aussi, on doit aussi à Henri IV, le plus ancien hôpital, l'hôpital Saint-Louis, construit pour accueillir les malades de la peste, avec ses toits très hauts, on logeait dans les toits. C'est pas très réjouissant de voir que les plus vieux toits de Paris sont ceux d'un hôpital. On les voit plus maintenant, il y a un immeuble devant. Et à l'intérieur de la cour centrale de l'hôpital Saint-Louis, on retrouve les chaînes harpées des fenêtres. On n'y pénètre pas facilement, c'est bien dommage. Voilà. C'est vraiment, avec ce qu'on a vu précédemment, les façades les plus authentiques, dites Louis XIII, et que moi j'appelle Henri IV, puisqu'en fait elles datent d'avant Henri IV. On arrive à... Voilà. La place Dauphine, édifiée en 1607 en l'honneur du futur roi Louis XIII. Pas mal modifiée depuis quand même. Les deux seuls bâtiments qui conservent leur aspect initial, enfin qu'ils conservent complètement ceux-là, c'est ceux qui encadrent l'entrée sur la place du pont, sur le pont Neuf. Là ici où je me suis placé, j'ai la statue de Henri IV derrière moi, le square du Vergaillant derrière, et là, l'entrée sur la place Dauphine. Donc avec son rez-de-chaussée arcade destiné à des boutiques, les deux étages de chêne harpé et les belles lucarnes. Vraiment un chef-d'œuvre. Est-ce que vous connaissez encore mieux la place Royale, bien sûr, construite à partir de 1606, habitée par Madame de Sévigné, Richelieu, Bossuet à l'époque, ensuite par Victor Hugo et Alphonse Daudet. C'est vraiment un chef-d'œuvre de construction harpée, connu dans le monde entier, très tranquille avec son jardin intérieur. C'est la première grande place complètement imposée, construite sur un carré de 108 mètres par 108 mètres. Avec 36 hôtels pavillons, presque identiques, comme ceux-ci, sauf deux, celui-là, le pavillon du roi, et le pavillon de la reine qui est juste en face. Non. Et tout autour, sa galerie voûtée péripérique. Je ne suis pas sûr qu'on saurait refaire la même actuellement, aussi plate que ça, même avec des ordinateurs. En fait, la création de la place royale lance le quartier investi par les nobles, les financiers, les magistrats, évidemment. Mais pas seulement, on parle aussi lettres chez Madame de Sévigné et aussi chez Scarron, la future Madame de Maintenon. Le plus bel hôtel qui jouxte complètement la place des Vosges est bâti en 1624 par un riche financier. Il est achevé en 1634 par Sully, qui est alors âgé de 75 ans. C'est certainement le plus bel exemple à Paris du goût français du début du XVIIe. Magnifique. Et dans la salle de la Caisse des monuments historiques, qui occupe l'édifice, monum, l'autre plafond Renaissance parmi les deux plus beaux de Paris. Vous connaissez le palais cardinal, construit par Richelieu pour être à proximité du roi, alors installé au Louvre. À sa mort, Richelieu le cède à Louis XIII. Et Anne d'Autriche s'y installe. En fait, Louis XIII suit rapidement Richelieu et Anne d'Autriche s'y installe avec le jeune Louis XIV. Le palais devient donc palais royal en 1643. Voilà le côté pile qu'on voit souvent et le côté face. Il faut aller voir derrière par le jardin. Là, actuellement, on a devant cette façade on ne reconnaît plus cette façade maintenant. Les façades du Paris du XVIIe siècle ne sont pas toutes comme celles de la place des Vosges. La plupart sont un très bel exemple de simplicité, avec un bel appareillage de pierre, des hautes fenêtres, bordées de chambranles très discrets. On en trouve plusieurs comme ça dans le quartier latin. Ah, j'ai pas mis de photo intermédiaire pour changer de. Mais j'ai mis ça quand même. Entre Henri IV et Louis XIII, il ne faut pas oublier la régence de Marie de Médicis. Je ne l'ai pas oublié. On lui doit deux choses, le palais du Luxembourg et l'île Saint-Louis. On doit peut-être d'autres choses aussi. L'île Saint-Louis. À l'origine, deux îles, comme vous l'avez vu tout à l'heure, l'île aux Vaches et l'île Notre-Dame, sont toujours inhabitées au début du XVIIe, complètement désertes, comme vous les avez vues au XVe siècle. Quand je vous ai dit qu'on devait à Marie de Médicis, c'est complètement faux, puisqu'il s'agit d'une initiative privée d'un entrepreneur qui s'appelle Marie. Qu'est-ce que fait Marie? Il réalise tous les travaux de viabilisation à ses frais. En contrepartie, il a le droit de lotir complètement l'île. Et c'est donc l'entrepreneur associé à d'autres, Marie, qui va complètement bâtir l'île Saint-Louis. Alors pour commencer, il faut faire un pont, c'est le pont Marie. Beaucoup croient que le pont, c'est Sainte-Marie ou Marie de Médicis, non, c'est l'entrepreneur du pont. Il faut d'abord construire ce pont, puis combler le canal qui était entre les deux îles, puis construire les quais, comme celui-là. C'est une belle balade, les quais. L'île est très homogène, parce que construite en 40 ans, achevée pratiquement en 1664, le début du pont, c'était en 1614, sur un axe central, très simple, qui est l'île, la rue Saint-Louis en Lille. On la surnomme l'île au palais. Louis Levaux s'est installé sur l'île et a contribué à la réalisation de presque tous les palais de cette île. L'hôtel de Chenizeau. J'ai triché un peu, mais on ne viendra pas sur l'île. Alors, lui, il date de 1730. On voit bien qu'il est de style Louis XV. Pas de style de l'époque. Hein, avec son balcon, avec ses consoles, ses chimères et sa terre de faune. Par contre, le plus grand hôtel, c'est l'hôtel Lambert. Il est bien d'époque. Enfin, il était d'époque. Immense. Une des plus belles demeures parisiennes. Et ici, on a un jardin intérieur, par exemple. L'hôtel, c'est tout ça. Hein. Cette partie-là, c'est tout ça. Il a été vendu par la famille Rothschild à l'émir du Qatar, qui l'a complètement transformé. Il était célèbre ces dernières années par un incendie qui a éclaté en 2013. Incendie provoqué par des travaux de l'époque. Il faut dire qu'on a fait, par exemple, une piscine de 50 mètres en sous-sol. Alors, je ne sais pas ce qui reste de l'hôtel. Mais enfin, il faut bien un pied à terre pour que l'émir fasse venir sa famille pour voir les matchs du PSG. Celui-là est plus resté comme il était, l'hôtel Lauzin, mais comme c'est un hôtel cour et jardin, ben on ne voit rien. On voit la porte d'entrée sur la cour et le superbe balcon. Voulu par Marie de Médicis, le palais de Luxembourg. Avec ça, elle pouvait fuir Louis XIII, le Louvre et Richelieu. Avec une touche florentine avec ses colonnes et ses frontons. Devant le plus grand jardin de Paris avec sa belle pièce d'eau. En dehors des parcs, il s'agit du plus grand jardin. Et la fontaine Marie de Médicis. On y est bien à cette saison-là quand il fait beau. Là. Et on passe à Louis XIV. Louis XIV pose la première pierre du Val-de-Grâce en 1641. Il a 7 ans. Le Val-de-Grâce est dû à François Mansart, puis à Le Mercier, puis à Jean Lemuet. Toujours quand on parle des grandes réalisations, on dit c'est dû à un tel. En fait, on ne sait jamais si Mansart a commencé, mais c'est plutôt dû à Jean Lemuet, parce que chacun, au fur et à mesure qu'il passait, changeait quelque chose, parfois très profondément. Et Jean Lemuet, c'est quand même un grand architecte, mais un peu moins connu que Mansart. Alors on dit c'est l'œuvre de François Mansart. C'est le chef-d'œuvre parisien de l'art classique, d'après le Bernin. Ce qui n'est pas étonnant, parce que c'est inspiré de Saint-Pierre de Rome, surtout par le baldaquin qui est à l'intérieur. Vous connaissez tous ça, il y a un énorme baldaquin. On ne voit rien, l'édifice est réservé à l'armée, vous le savez bien. Et l'église Saint-Roch, encore une de style jésuite, commencée en 1653 et achevée en 1736. Encore une, faite en 80 ans. Elle est particulière, celle-là, parce qu'elle est témoin du premier fait d'armes de Bonaparte. En 1795, une colonne de royalistes mène une attaque contre la Convention aux Tuileries. Bonaparte les refoule, cerne les insurgés qui sont massés sur les degrés de l'église. Il les fait mitrailler pendant 3 quarts d'heure, s'il vous plaît. Résultat, 300 morts. On est en Vendémiaire, nous le surnommons Bonaparte, le général Vendémiaire. Et celle-là, l'Institut de France, bien sûr. À l'origine, c'est un legs de Mazarin pour la construction. Ah, je me suis trompé de. Tiens, il manque une. On va faire ça. Un legs de Mazarin pour la construction d'un collège. Un beau collège quand même. Alors je ne vous rappelle pas l'histoire des 5 académies qui sont installées là. Alors, ce qui incarne la majesté du style classique français et de Jules Hardouin-Mansart. Alors, comme tout à l'heure, en fait, Jules Hardouin-Mansart, commencé par Libéral Bruant, qui lui est pour beaucoup, je pense, dans cet édifice. Libéral Bruant est l'architecte de la Serpêtrière. Si vous allez à Paris, allez à la Serpêtrière et allez voir notamment l'église, ou plutôt une église intérieure à la Serpêtrière qui est magnifique. Achevée par un troisième architecte qui est Robert Lecotte, commencée en 1671, elle est terminée en 1750, créée pour accueillir les soldats blessés ou mutilés, vous savez bien. C'est le chef-d'œuvre de l'art classique, pas seulement pour son dôme. Voilà le dôme. Le dôme a été redoré 5 fois depuis sa construction, la 5e fois pour le bicentenaire de la Révolution. La contribution de Louis XIV au Louvre, si son dessin intérieur, il s'est quand même occupé d'un peu de ça, confié à Perrault, puis Le Vau et d'Orbay. Il avait rejeté la construction du projet du Bernin, qui était beaucoup trop italien. Effectivement un peu plus français. Est-ce que vous devinez cet arc de triomphe, d'où il est? Pas facile. J'ai cadré ma photo comme ça pour vous montrer les femmes aux trompettes et, ou aux couronnes de laurier, qu'on retrouvera ensuite tout le temps, tout le 19e siècle, et jusqu'à la guerre de 14 largement, sur tous les bâtiments néoclassiques en France. Mais il est là, en fait. Hein? Donc, en cadrant les photos, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, il s'agit de la porte Saint-Denis, bien sûr. Hein? En l'honneur des victoires de Louis XIV. Mais Napoléon est entré par là quand même au retour d'Austerlitz, bien qu'il s'agisse d'une porte royale. L'arc de triomphe était où comme ça quand il est rentré d'Austerlitz? Le triomphe de l'étoile. L'hôtel de Soubise, construit en 1371, donc ce n'est pas à l'époque, mais le péristyle de la cour, est construit de 1705 à 1709. Il appartenait au duc de Guise. Superbe cour à cheval, en fer à cheval, surmontée d'une balustrade. Ça devait faire une belle promenade. Différent, la cour du commerce Saint-André, dans le quartier de l'Odéon, une rue bien conservée, avec ses pavés d'époque, et qui est la rue qui passe derrière le Procope. En 1686, un Italien nommé Procope propose de servir des cafés dans un troquet. C'est maintenant le plus ancien café de Paris. Voilà l'arrière du Procope. C'est le lieu de réunion des philosophes du XVIIIe siècle. On dit que Diderot et d'Alembert ont conçu leur encyclopédie ici, bien sûr. Danton, Marat, Camille Desmoulins se retrouvaient là. Plus tard, Musset, Georges Sand se voyaient là. Pas besoin de venir là. Balzac et Verlaine le fréquentaient. C'est assez sympa. Hein. C'est pas plus cher qu'ailleurs pour y aller casser la croûte. Et on mange pas n'importe où. Quoi. Dans la même rue pavée, au numéro 8, sortait l'ami du peuple. Marat sortait l'ami du peuple. Au numéro 9, on a construit la première guillotine. Donc c'est une rue chargée d'histoire. Cette photo, elle annonce les façades des bâtiments au temps de Louis XIV. Les plus grands ensembles religieux, pour s'assurer d'un revenu régulier, bâtissaient sur des terrains qui leur étaient légués, des bâtiments, des maisons comme celle-ci. Celle-ci est quand même exceptionnelle. La plupart ont bien sûr disparu. Elle est construite pour le chapitre de Saint-Germain-l'Auxerrois. Il s'agit de 24 maisons à loyer. En réalité, l'ensemble du bâtiment est 6 fois plus grand que ce que j'ai pris en photo, là, qui est la partie centrale avec son fronton. L'assassinat d'Henri IV a eu lieu ici. Vous voyez la plaque qui signale l'assassinat d'Henri IV. Alors à l'époque, il n'y avait pas ce bâtiment. La rue était différente, mais il a bien été assassiné ici. Les bâtiments de style sévère sont vantés par les architectes de l'Académie royale. L'élégance est en fait dans l'appareil de pierre, dans les grandes fenêtres rectangulaires, avec des chambranles très légers, un seul cours de cordon entre les étages, vraiment très sobre. Ici, 23 rue Daniel Casanova, dans le premier arrondissement, l'élégance de la façade est relevée ou égayée par l'arrondi des fenêtres et surtout par le balcon à console. Hein, et le beau fer forgé. Un peu plus recherché, avec ses murs à refend, ses fenêtres cintrées, ses décorations qui annoncent en fait presque des rocailles de l'époque Louis XV. Et maintenant, par rapport à ce style sobre, le grand style. En Italie, au début du XVIe, dans plusieurs villes comme Vérone, se sont développées des places bordées de palais à riches façades. En France, c'est l'expression du rancide qui est lancée avec la place des Victoires sur un dessin de Jules Hardouin-Moissard. Réalisée en 1685, la place des Victoires fait donc événement. Elle est circulaire, un diamètre de 80 mètres environ. Elle est faite pour entourer une statue de Louis XIV. Comme d'habitude, ce n'est pas celle-là, c'est la statue de l'époque qui avait disparu à la Révolution. Elle est extraordinaire par ses maisons uniformes, sur un rez-de-chaussée avec entresol, creusé de refends, hein, ornée de bossages et de mascarons. Avec 2 étages avec pilastres couronnés de chapiteaux. C'est vraiment le style de Paris. C'est ce qui va lancer toute l'architecture parisienne qui sera reprise sous Napoléon III et jusqu'à la guerre de 14. C'est l'image de Paris. Alors pire, la place Vendôme, réalisée 25 ans plus tard, également sur les plans de Jules Hardouin-Moissard, de 1702 à 1720. Elle est bordée de grands hôtels particuliers. Hein ? C'est une grande place octogonale, en fait. Elle est rectangulaire, mais avec les coins coupés, ce qui fait un octogone. Qu'est-ce qui caractérise le style classique, hein, comme tout à l'heure, rez-de-chaussée à refend, grande colonne ou pilastre. Ici des colonnes, là des pilastres, des chapiteaux, hein, des frontons sculptés, des mascarons. Voilà un des coins coupés avec ses belles colonnes. Ce qui surprend plus, ce sont les dépendances. Là, j'ai eu la chance d'avoir, par une porte ouverte, de prendre des photos des dépendances. Et des... On n'imagine pas les arrière-cours qui sont derrière la place Vendôme, avec ses colonnes et chapiteaux, ses frontons. Là, le gardien qui m'empêche de prendre la photo. Là, c'est pris ailleurs. Pour annoncer Louis XV. Vous connaissez ce palais-là. C'est l'un des plus célèbres hôtels particuliers construits pour la duchesse de Bourbon, fille de Louis XIV, et son amant, le marquis de Lassay. Il s'agit du palais Bourbon et de l'hôtel de Lassay qui sont dans une même enceinte. La deuxième résidence, l'hôtel Lassay, a conservé complètement son aspect de l'époque, mais on ne voit rien. Ce qu'on voit, c'est le palais de Bourbon qui a beaucoup changé, lui, avec, enfin surtout, sa façade, son fronton. L'hôtel de Lassay, on a entendu parler récemment. Il était célèbre avec de Rugy. D'accord ? Et juste en face, c'est pas le palais Bourbon, mais la Madeleine. En face, quand on traverse la Seine, la place de la Concorde et la petite rue Royale, on arrive là. D'ailleurs, la photo du palais Bourbon que j'ai montré avant, a été prise d'ici. Vous voyez. J'étais là quand j'ai pris la photo du palais Bourbon. Louis XV, en fait, s'intéresse à l'urbanisme parisien, sans doute sous l'influence de la Pompadour, avec trois grands projets, deux églises, un autre projet en faveur de la ville et un en faveur de l'armée. Pour séduire le clergé, la première église, c'est celle de la Madeleine, interminable chantier qui sera achevé sous la monarchie de Juillet, colossal, avec ses grandes colonnes, un chapiteau encore. Mais plus colossal, la deuxième église, qui est l'église Sainte-Geneviève, le Panthéon actuel, conçue par Soufflot, qui a fait appel à deux ingénieurs, vous les connaissez bien sûr, Rondelet et le deuxième, voilà, gagné. Ce qui explique l'aspect très colossal et un peu lourd. Bon, je ne vais pas insister. Modifié en 1791, en fait, pour en faire un temple républicain, modifié par Quatremer de Quincis, qui a encore alourdi l'ouvrage, d'où des travaux de consolidation entrepris à l'époque qui ont duré jusqu'en 1801. Mais ces dernières années, on vient de faire d'énormes travaux de rénovation et de consolidation. Il y a une drôle d'histoire, le Panthéon, là il s'est pris de la rue d'Ulm, juste à ma droite, là, j'ai l'école Normale-Sup, dans la rue d'Ulm. On fait toujours une astuce, là, c'est que allez-vous pas aller là-bas, on entre facilement à Normale-Sup. On y entre comme on veut, en fait, contrairement à ce qui se raconte. Bon, vous avez compris. Enfin, histoire quand même compliquée. C'est une église qui est revenue deux fois au culte après être passée aux grands hommes, qui est repassé aux grands hommes pour les obsèques de Victor Hugo, démesuré, en forme de croix grecque. Alors j'ai pas de photo, j'ai pas de drôme, pas de photo d'avion, en croix grecque de 110 mètres par 84 mètres. Le dôme est haut de 83 mètres. Il s'agit en fait de trois coupoles encastrées les unes des autres, sans charpente. Trois coupoles maçonnées. La coupole extérieure est en pierre, bien sûr, avec des lames de plomb, et la coupole intérieure. Sur la coupole intérieure, on a les fresques qu'on voit de l'intérieur du Panthéon. Avec une coupole intermédiaire, le tout pèse 17 000 tonnes. Tout est colossal, avec la couronne de colonnes. Imaginez cette couronne de porole très loin du sol. quand même un super édifice dont la France est fière. Alors, travaux de Louis XV en faveur de la ville, la place royale. Une énorme place avec en son centre une statue équestre de Louis XV, bordée par deux majestueux bâtiments de chaque côté de la rue royale qui mène à la Madeleine, par là, aujourd'hui l'hôtel Grillon et l'hôtel de la Marine. Donc on doit ça à Louis XV. En faveur de l'armée, qu'est-ce qu'a fait Louis XV ? Au bout du Champ de Mars, l'école militaire, chef-d'œuvre de Jacques-Ange Gabriel. Pour passer aux façades du temps de Louis XV, encore le style sobre. Voyez ici trois étages séparés de sobres bandeaux, fenêtres cintrées, allège basse sans chambranle. Ici, 4 à 12 rue Miron, en fait 11 maisons locatives sur un dessin uniforme. Toujours qualité de l'appareil de pierre, avec l'élégance des appuis en fer forgé. Là, un autre style. On est au croisement de la rue Saint-André de Lézard et de la rue des Grands Augustins, dans le 6e. L'angle est arrondi, comme dans beaucoup de maisons de cette époque, avec les voies étroites pour faire passer les charrettes. Au premier, qui est l'étage noble, un très beau balcon, une belle porte-fenêtre et une rocaille au-dessus. Dans la rue Saint-André-des-Arts, à peu près le même balcon. Le balcon est soutenu par des consoles à tête de chèvre, que vous voyez là. C'est assez beau, avec une rocaille sur la façade. Rue Royer-Collard, dans le 5e, dans le quartier d'Attin, avec les portes de cette époque caractéristiques, portes de menuiserie à Parnoux, jusqu'à présent, jusqu'en 1650, à près de 1650, on n'en trouve plus, les portes étaient des portes cloutées. Je vous en ai fait passer rapidement tout à l'heure entre deux chapitres. Et le décor de cuir et rocaille, ça s'appelle comme ça, au rez-de-chaussée et aux étages. Très caractéristique de l'époque Louis XV. Des façades plates, simples, avec des rocailles. Une élégante maison de rapport dans le style hôtel sur la rue. La porte d'entrée permet d'entrer dans la cour, là, et il y a un hôtel derrière. Couronné par un beau balcon. Et de belles fenêtres en plein cintre, rue Saint-Honoré. La réaction classique à ce style rocaille, c'est le style à la grecque. Alors, bien sûr, je vous ai montré ce qui était le plus caractéristique de l'époque, toujours de plus spectaculaire, mais on trouve aussi pas mal de ces maisons-là avec des grecques dessinées sur les façades. Il y a déjà quelqu'un qui a fait un truc comme ça, mais en peinture. J'ai appelé l'époque suivante le temps des Lumières, parce que je ne vois pas comment on pouvait l'appeler de 1763 à 1792. On va se rendre au Palais Royal. Ça n'a pas l'air, mais c'est comme ça. Le Palais Royal est passé aux mains du régent Philippe d'Orléans, qui lui réalise une vaste opération immobilière en faisant construire des maisons de rapport sur les trois côtés du jardin. On devine là, en fait j'ai plus photographié les magnolias et les jets d'eau, mais les façades sont pas mal non plus. L'architecte est Victor Louis, architecte du théâtre de Bordeaux et de bien d'autres réalisations à Bordeaux. Sous les maisons, les célèbres galeries du palais. Le jardin Et le domaine princier, voilà une autre époque de l'année. Le jardin et le domaine princier sont bien connus pour les libertés de pensée et les libertés de mœurs à l'époque. Mais j'ai pas de photo. Ah. Le parc Ponceau. Aussi une création de Philippe d'Orléans en 1778. C'était en fait son jardin privé, mais beaucoup plus grand, je crois 5 ou 6 fois plus grand que le parc Ponceau actuel. Il s'agit là des plus belles grilles dorées de Paris. C'est beaucoup plus beau qu'à la place Stanislas. Des plus riches aussi. À l'intérieur, quelques restes des folies du jardin du XVIIIe siècle. Ça s'appelait comme ça, ces constructions anciennes, à l'ancienne, du XVIIIe siècle. Il en reste quelques-unes dans le jardin. Et là, vous connaissez peut-être, il s'agit de l'école de droit qui est place du Panthéon. Dans le cadre de l'urbanisation, construite dans le cadre de l'urbanisation du quartier, en 1770, j'ai mis cette photo car c'est une façade d'une pureté toute classique, exceptionnelle. Et pour pouvoir comparer à côté, celle-là vous la connaissez sûrement, c'est la mairie du 5e, célèbre du temps de Tibérie. Construite beaucoup plus tard, de 1844 à 1850. Évidemment, plus qu'inspirée par l'édifice qui est en face. Voilà le modèle. Voilà la copie. À vous de juger. On revient au parc Ponceau avec la rotonde du mur des fermiers généraux. On avance dans le temps, on est à la veille de la Révolution. Vous savez que les rotondes ont été construites par Ledoux, donc c'est un des postes de surveillance du mur. Voilà l'autre, encore plus belle que la précédente. Achevée celle-là à la veille de la Révolution. Et en fait, le mur n'a pas eu le temps d'exister, le mur murant Paris n'a pas eu le temps de vivre. Certains sont morts avec le mur. On revient au plan général pour voir la énième enceinte de Paris. Voilà, du mur des fermiers généraux. Vous avez donc à l'intérieur le Paris de la Révolution. Moins de moitié, en fait, du Paris actuel. Le Paris actuel, c'est après l'adoption, l'annexion, on pourra dire, de toutes les communes périphériques. Voilà ce qu'il était à l'époque. On vient de voir ici la rotonde de la Villette et là, la rotonde du parc Ponceau. Alors pour parler de la Révolution, j'ai fait preuve d'originalité, enfin j'ai essayé. Plutôt, d'abord, j'avais du mal à photographier la Bastille ou le Palais Royal, donc j'ai photographié un truc qui existe encore. Il s'agit d'une photo du maître qui est juste derrière le Sénat. Juste derrière le Sénat, il n'y a qu'à lire. Il s'agissait donc de mètres qu'on disposait dans la rue pour que les commerçants et les artisans viennent étalonner leur unité de mesure. J'ai mis ça pour parler de ce qui se passait à la Révolution sous la Terreur. Bon, on aurait pu parler d'autre chose. Mais il s'est passé aussi des choses extraordinaires. C'est l'invention française adoptée par le monde entier, sauf l'Angleterre. Le principe de l'uniformisation des mesures, il avait été admis dès 1790. Et c'est une loi de 1795 qui définit le mètre, le litre, le gramme. Je ne vous la rappelle pas. Pour mémoire, le comité des poids et mesures était présidé par Lagrange. Il comprenait entre autres Lavoisier, Borda et Lalande. Tout ça pour vous parler de ce qu'était l'Assemblée à l'époque avec la contribution des savants. Je ne sais pas pourquoi on ne fait plus ça. Et le corollaire du système métrique, c'est bien sûr le système décimal. C'est l'invention la plus importante. C'est pas simple, il faudra un demi-siècle pour imposer les unités de mesure et le système décimal. Bon. Pour passer aux façades du temps des Lumières, voilà un bâtiment de 3 étages du quai des Tournelles. Style qu'on appelle le style classique tempéré. Corniche élégante au premier étage, linteau cintré des fenêtres. Un autre, une place de l'Estrapame, aussi du style classicisme tempéré, avec son rez-de-chaussée creusé de refends, des tables en saillie. Vous remarquerez les hauteurs des étages. Les étages supérieurs, la hauteur des étages va en décroissant, en partant du bas vers le haut. On louait moins cher à l'époque en partie haute, donc c'est la caractéristique des maisons louées. Plus on montait, moins on louait cher, mais moins on leur laissait de place. On va retrouver ça sur beaucoup de bâtiments. Ah, celui-là, les rues de Tournon. Chirac habitait 4 rues de Tournon. Celui-là, il est 12 rues de Tournon. J'ai effectivement une photo du portail d'entrée du 4 rues de Tournon, mais je ne l'ai pas mise par décence. Pourtant, c'est un beau portail. Les 12 rues de Tournon. Voilà un bâtiment très caractéristique, de murs à refends, très marqué au rez-de-chaussée, plus léger, plus haut. Par les refends, on marque en fait la solidité de l'immeuble, avec des refends profonds. Et plus on monte, plus on veut marquer un peu plus la légèreté, et on diminue la profondeur des refends. En voilà un autre, les refends du rez-de-chaussée, qui a carrément un mur lisse aux étages. On retrouve le style sobre, dont on a parlé dans les époques précédentes. Et ces bâtiments-là cachent souvent derrière leurs portes, comme ça, cachent souvent des hôtels particuliers derrière. La preuve, là on est au 5, juste à côté de ce qu'on vient de voir, et voilà la porte ouverte. Voilà l'hôtel particulier à l'intérieur. Les rues Bonaparte. Le précédent c'était 7-9 rues Bonaparte, là on est 5 rues Bonaparte. Retour au grand style. Vous reconnaissez ces pilastres sur les façades. Là, on est à 1 rue du Mail. C'est à côté de la place des Victoires. Pilastres d'ordre colossal sur 3 étages, avec des chapiteaux qui commencent à devenir un peu plus bizarres, mot de 18e siècle, qui sont plus guère grecs. En 1780, idem, voilà des pilastres sur 3 étages. Là, on est où j'ai caché le rez-de-chaussée, là, on est sur les étages qui sont au-dessus. Mais plus moderne, des pilastres avec une décoration différente, plus futuriste et plus proche du rococo des bâtiments publics. Et un ensemble coordonné, qui n'est pas celui de la place des Victoires, une place semi-circulaire qui est la place de l'Odéon, autour du théâtre qui est ici. On arrive à l'époque suivante, 1793-1830, Percier et Fontaine. Effectivement, vous devez vous demander qui est Percier et Fontaine. C'est en fait les gens nouvelles de l'époque, mais en double. Ce sont les architectes en vogue, ceux qui étaient choisis par Napoléon pour beaucoup d'édifices, mais c'est notamment les architectes de la rue de Rivoli. Donc, c'est ce que j'ai choisi comme titre, parce que de 1893 à 1830, c'est difficile de déterminer à quelle période on est. Je commence par la colonne Vendôme, on revient à la place Vendôme, qui change un peu avec l'époque. Et en 1810, Napoléon fait dresser une colonne qui imite la colonne Trajan, c'est évident, hauteur 44 mètres, avec une spirale en bronze à la gloire des exploits de l'empereur. Cette spirale s'enroule sur 280 mètres. Elle est fondue avec les 1250 canons pris à Austerlitz. Elle était détruite à la Commune, vous connaissez l'histoire de Courbet, et c'est Mac Mahon qui a décidé de la refaire en 1873. Donc ici, c'est bien la colonne de Mac Mahon. La mode, c'est la mode des fontaines au lieu. On en trouve plusieurs dans Paris. Celle-ci est à la Villette, devant la Grande Halle. Celle-ci est place Félix Éboué, qui est l'ex-place Daumesnil. Alors en fait, elle a été faite pour être rue place du Château d'Eau. La place du Château d'Eau est devenue la place de la République, on a multiplié par 10, en 1880. Il fallait changer la place, on était sous la République, et on a expédié cette fontaine-là à la place Daumesnil. Et celle de la place Daumesnil, c'est celle qu'on a vue avant, qui a été expédiée à la Villette. Je ne sais pas si vous comprenez, mais enfin, c'est pas très grave. Ouais. Pas mal. La plus connue, c'est celle de la place du Châtelet, la fontaine dite du Palmier. C'est une commémoration de quoi? Ah, on va venir comme ça. Évidemment, des victoires de Napoléon. Et là, ce ne sont pas des lions, ce sont des sphinx, autant à la mode, évidemment. Un bel ouvrage, c'est l'Arc de Triomphe du Carrousel. Il est inspiré de l'axe romain de Septime Sévère, c'est assez évident. Moi, je le trouve assez réussi. Il célèbre quoi les victoires de Napoléon? Et l'empereur avait fait placer à l'époque sur la plateforme le quadrige enlevé à la basilique Saint-Marc de Venise. Depuis, on l'a rendu, on l'a refait en août. Le nom du carrousel vient du grand carrousel de 1662, c'est une gigantesque paraphe et caisse théâtrale donnée en l'honneur du dauphin à l'époque et qui s'est tenue là. Donc on a gardé le nom. Bon. Je trouve ça pas moche. Et la Bourse, ou Palais Brongniart, construit par Brongniart, décidé sous la Révolution, mais en fait réalisé sous Napoléon en 1807, terminé en 1825. Napoléon n'a pas terminé Gansouche parce que ça n'a pas duré longtemps, son régime. Imposant, pour Napoléon, c'était l'emblème du futur commerce européen. Après toutes ses conquêtes de l'Europe, il allait faire de la Bourse de Paris le centre du commerce européen, bien sûr. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. C'est aussi l'époque des canaux. Le canal de l'Ourcq et ici le canal Saint-Martin, inauguré en 1825. Pas en avance par rapport au canal du centre. Évidemment, encore moins du canal du Midi. mais les Parisiens aiment beaucoup leur canot. Ici, le bassin de la Villette. Et plus loin, plus près du canal de l'Ourthe. Ici, on a l'hôtel du Nord, derrière. Là. Une photo assez connue. Voilà, je vous la donne pour l'atmosphère. Là. Les façades de l'époque de Percier et Fontaine, je vous l'ai déjà dit, Percier et Fontaine était l'architecte de la rue de Rivoli. La rue de Rivoli, c'est un événement dans l'architecture. Elle s'inspire d'un projet révolutionnaire. On attribue beaucoup de choses à Napoléon qui sont nés sous la Révolution. C'est un projet de 1793, mais la construction est décidée sous le consulat. Et c'est seulement en 1802 que Napoléon confie à Percier et Fontaine le dessin. C'est aussitôt exécuté pour la partie Concorde, place du Carrousel. Jusqu'en 1817, stoppé à 1817, on sait pourquoi. À l'époque, certains tronçons comportent, à la fin de l'Empire, comportent seulement les arcades avec l'amorce de ce qu'il y a aussi. Donc c'était une triste rue. Elle était complétée et prolongée en plusieurs épisodes sous Louis-Philippe. Il est évident qu'on ne reprenait pas à la restauration, on laissait tomber tout ce qui avait été fait sous l'Empire. Mais à l'époque de Louis-Philippe, c'est l'époque de la Concorde, on redémarrait ce que les autres avaient fait avant. Donc en fait, la rue de Rivoli, que l'on croit de Napoléon, est surtout construite sous Louis-Philippe et en plus, bien sûr, par Napoléon III. Elle est conçue en pierre de taille pour la promenade sous arcade. Très caractéristique, avec ses trois balcons filants. Okay. Ses combles arrondis qu'on verra partout dans Paris par la suite. Son gabarit de fenêtre, très élégant. Les fenêtres se détachent sur le nu du mur. Encore une fois, nu. Très sobre, mais des fenêtres à chambranle moulurée. Je trouve très belle, moi. Avec leur corniche. Donc c'est le goût imposé en fait par Percier et Fontaine, qui va complètement marquer l'époque et qui sera perpétué par des architectes tels que Visconti et Leclerc, dont on parlera plus tard. Pour faire fervent, c'est le goût néo-raphaélesque de l'époque. Vous connaissez ça, bien sûr. Voilà la partie haute. Tout Paris est comme ça, maintenant. À l'époque, on n'en avait pas encore vu. Et le quartier entre la rue Saint-Honoré et la rue de Rivoli, près de la Concorde, est aménagé dans le même style. Ici, on est 12 rues d'Alger. Ça ressemble exactement à la rue de Rivoli. L'architecte est Visconti. Là, on est place Francis. C'est dans le 10e arrondissement. Les architectes sont Leclerc et Constantin. Commencé en 1825, achevé en 1835. C'est une synthèse entre l'architecture à la française et à l'italienne. Avec des doubles balcons filants, des fenêtres italianisantes. Assez élégant. Un autre exemple d'architecture synthèse de l'architecture à la française et à l'italienne, 19 boulevard Saint-Denis. Je vous ai dit que les boulevards avaient été créés par Louis XIV, mais la construction des immeubles le long du boulevard a duré bien longtemps, la preuve. Ah. En 1806, un autre style avec le jeu sur la variété des baies et des étages. Là, on n'est plus dans le sobre, on joue complètement sur la diversité. Un autre exemple, 5 places du Caire, qui montre le goût de l'antique, particulièrement de l'Égypte à l'époque. Donc on trouve dans Paris, à cette époque, beaucoup de façades de ce style, enfin de ce style, ou d'un autre style qui rappelle l'Égypte. Et là, c'est le square d'Orléans. On n'est plus sous l'influence égyptienne, mais anglaise. Il s'agit d'une cité construite par un architecte anglais sous la Restauration, dans le goût gréco-anglais, on va dire. Une cité, elle est importante, cette cité-là. Si vous allez par là, ça vaut le coup de le visiter. Maintenant, c'est plus que des sociétés qui sont là-dedans. Elle est habitée par Georges Sand et Chopin, par Alexandre Dumas. C'est aussi l'époque des galeries. Je vous en montre qu'une, c'est la galerie Vivienne. À mon sens, la plus belle parce que c'est celle qui a gardé son décor et son dallage initial de 1823. Avec un bel éclairage zénithal par une verrière. Il y en a bien d'autres. Bon, j'ai le temps encore de vous parler du palais du Paris de Louis-Philippe. Non, c'est un peu juste, hein. Alors on va arrêter, on fera Louis-Philippe la prochaine fois si vous voulez. Je vais juste vous montrer. Oui, je ne voyais plus l'heure. Je vais juste vous montrer. Donc, hein. L'époque de Louis-Philippe, c'est l'époque de la construction de la place de la Concorde et de l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe n'est pas né sous Napoléon. Hein. Je vous ai dit qu'il y a Napoléon. À la fin de l'Empire, il faisait quelques mètres. Il était complètement revenu après Napoléon et voilà ce que ça donne. Il faut en faire le tour, c'est quelque chose. Voilà les trompettes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on verra partout. Là, on connaît, c'est à Bourguignon. Bon. Bon, et bien, on va s'arrêter là-dessus. Louis Philippe. Si vous avez des questions, non. S'il y a des profs d'histoire, il doit bien y en avoir dans la salle quand même, qui veulent intervenir et compléter ce que j'ai dit sur l'histoire de Paris, il ne faut pas vous gêner. Non, vous n'osez pas. Si vous voulez voir le plan de Paris du XVe siècle, c'est une curiosité.